que c'est là où on frappe la balle? Est-ce que Volpe est différent des autres? Ou si s'il y a une tendance globale?
Ben écoute, je pense pas que Volpe est différent des autres. C'est lui, c'est comme si on l'avait pris en cobaye, si vous voulez. Là, on s'est dit, gars, on va l'essayer avec lui. Mais non, parce que, tu sais, tu as parlé de la vélocité, Alain. Inévitablement, plus tu lances fort, plus tu affrontes un lanceur qui lance fort, plus tu vas te faire menotter.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado Compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, Alain Huzreau et Marc Griffin. On parle évidemment de l'actualité dans le monde du baseball. Aujourd'hui, on va s'attendre au premier week-end de la saison. Quelques observations sur les Blue Jays de Toronto. C'est question aussi de la controverse au Yankee Stadium avec les nouveaux bâtons. Marc va élaborer un petit peu là-dessus, lui qui a pris des informations avec ses contacts. Également, Marc, en parlant avec Édouard Julien au cours de la dernière semaine, va nous parler peut-être d'une nouvelle façon d'évaluer, une nouvelle façon. Peut-être, en tout cas, on verra là, peut-être une façon plus scientifique d'évaluer les frappeurs. Je pense que ça existait déjà, mais peut-être que là, les frappeurs en seront de plus en plus conscients, peut-être les amateurs également. On va élaborer là-dessus tout au long de ce balado. Marc, les Blue Jays, Max Scherzer, je vais être très bref. Es-tu surpris?
Non, je pense qu'il n'y a personne de surpris, malheureusement. On connaît le passé pas si lointain de ce Scherzer à ce niveau-là. C'est un gars qui était à risque, évidemment, on le savait chez les Blue Jays. Ce qui m'a un peu tétillé là-dessus, Alain, c'est qu'au moment où il s'échauffait, il a déjà mentionnait que ça n'allait pas nécessairement à 100%. Et vous savez, lorsque vous êtes blessé à un endroit, dans ce cas-ci, un pouce, dans le cas de Scherzer, ben on compense ailleurs. Et c'est là souvent que les problèmes commencent véritablement parce que la compensation fait en sorte que soudainement, ben, on va développer un problème. Exemple, si un lanceur a mal à une épaule, on va faire un petit peu plus de coude juste pour compenser. Puis là, ben, c'est les problèmes au coude qui commencent. Alors, j'aurais peut-être aimé ça que même Scherzer dise, écoutez, je veux bien, là, mais je suis pas à 100%. Puis si t'es pas à 100%, Alain, à affronter les meilleurs frappeurs au monde, faut se le dire, les frappeurs du baseball majeur. Écoute, inévitablement, ça ira pas bien. Là. Et alors, j'aurais aimé ça qu'on prenne un petit peu plus de leadership, que ce soit Scherzer qui l'a mentionné ou même la direction des Jays pour dire, hey, regarde, il est pas à 100%. Ça nous met dans le trou pour ce match précis-là, c'est vrai. Mais peut-être que si on force pas la note, ben Scherzer va peut-être manquer un départ ou deux, puis là, il va revenir. Tandis que là, on l'essaye. Si ça marche pas, ça fonctionne pas, est-ce que, bon, on va le perdre pour encore plus longtemps? On saura jamais, là, mais encore une fois, je sais qu'il y a des joueurs qui jouent blessés, mais lorsque t'es lanceur, Alain, c'est très difficile de se dire, regarde, on va foncer là-dedans. Donc, c'est pas pour dire que non, on n'est pas surpris. Puis, tu sais, Alain, c'est quoi? C'est 32, 33, 35 départs maximum une saison complète, là, dans le baseball majeur, là, si vous êtes un lanceur partant qui saute pas de tour. On se disait, si c'était une quinzaine de départs, je pense que c'est déjà pas mal bon dans le cas de Scherzer. Certains disent, ben, ça serait 20, là, qui serait peut-être le total. Puis là, ben, déjà, on sait qu'il va sauter au moins un tour, sinon deux. Fait que, il faut déjà tester un peu la profondeur des lanceurs, partant chez les Blue Jays de Toronto.
Mm-hmm. Marc, on s'est parlé après le premier match qu'on a fait dimanche et le constat est à peu près le même, c'est-à-dire, on a réussi à arracher deux victoires aux Orioles de Baltimore, malgré le fait qu'on n'a pas joué de la grande balle chez les Blue Jays. Je ne sais pas comment tu le prends. On dit souvent que les bonnes équipes parviennent à gagner même sans leur meilleur. D'autres disent qu'on ne pourra pas soutenir un tel rythme. Quelque chose entre les deux?
Bon, écoute, c'est sûr qu'il n'y avait rien de spectaculaire là, si tu regardes en général. Mais il y a une excellente sortie de Chris Bassett. Le travail de Jimenez et au bâton et en défense a été excellent. Donc, il y a des choses positives. T'sais. On a vu ce que Rodon peut faire, qui n'a pas l'air fou. Il y a un paquet d'affaires. Donc, c'est... Mais le constat quand même reste assez évident, Alain, selon moi. C'est que tout là, je surprends personne en disant ça, mais tout tourne autour de Bichette et Guerrero. T'sais, c'est une équipe qui est bâtie. Je sais qu'on a ajouté Santander, puis que, tu sais, on a d'autres joueurs de soutien. Puis quand je dis soutien, là, je parle que, tu sais, on compte pas nécessairement sur uniquement sur ces joueurs-là. Faut que tout le monde produise, mais entre autres, faut que ça tourne autour de Bichette et Guerrero. Et si les autres font le travail, ben là, ça va mener à quelque chose d'encore plus intéressant. Donc, tu sais, est-ce que Berrios se connaît un mauvais départ? Absolument. Est-ce que ça va être de même toute la saison? Absolument pas. Donc, comme les frappeurs vont connaître des mauvais matchs, et à la fin de la journée, sur les 162, il faut que ça tourne autour de ces deux gars-là. Donc, c'est pas si mal, compte tenu du fait que surtout que le premier match, déjà, j'entendais les partisans des Jays paniquer un peu parce qu'on s'était fait varloper par les Orioles dans le premier, mm-hmm. alors qu'on on a rebondi dans dans tout ça. Alors, ça reste fragile, Alain. Ça reste fragile, mais si tout le monde joue bien, ça va être une très bonne équipe. Mais c'est juste qu'il faut que c'est vraiment, même si c'est un sport d'équipe individuelle, là, il faut vraiment que tout le monde embarque dans le processus pour que les Jays puissent connaître une bonne saison.
Ouais, Rodon Wagner, Marc, Wagner semble continuer sur la lancée de l'année passée. C'est quelqu'un qui va être utile à l'équipe. Rodon, ses chiffres, bon, c'est un échantillon très, très mince, mais pas l'air surclancé. C'est peut-être ce qu'on peut établir la lumière de ce qu'on a eu au cours de la fin de semaine.
Ouais, écoute, il a 25 ans, donc c'est pas là quelqu'un de très, très mm-hmm. jeune en termes là d'inexpérience. C'est un gars qui a du vécu mm-hmm. quand même, mais ce sont ses premiers pas dans le baseball majeur. Moi, j'aurais pas hésité à le mettre premier frappeur, personnellement. C'est le rôle qui va jouer, c'est-à-dire qu'il se rend sur les buts. Il est pas mal plus rapide qu'il en a l'air, soit dit en passant, sans être une gazelle. Mais moi, je trouve que la formation des Blue Jays avec Bichette 2 et Guerrero 3, ce sera encore meilleur. Tu sais, ce sera encore meilleur. Puis là, tu descends un petit peu tout le monde. Ça fait un milieu de formation qui est encore plus, tu sais, qui pourrait produire davantage. Bon, là, c'est le baseball majeur. Ce ne sera pas un rôle évident, mais il me semble être le gars que si tu le trempes dans quelque chose d'important, dans un rôle important, il pourrait éclore rapidement. C'est une opinion qui est très personnelle. Là. Il y en a qui peuvent s'écrouler. Mais tu sais, en le mettant dans le bas la formation, en comme neuvième frappeur, là, tu vas me dire c'est le deuxième premier frappeur. Puis effectivement, c'est souvent le cas lorsqu'on place un gars au neuvième rang. Là, mais je sais pas. Moi, j'aimerais qu'on lui donne un rôle plus important. Puis lorsque Bichette ou Guerrero se présentent au bâton, il y a un coureur sur les buts, ben c'est là qu'on peut faire un peu plus de dommages.
Mm-hmm. Est-ce que ça met pas en lumière les ennuis aussi au monticule des Orioles? On sait qu'on n'a pas Rodriguez. Il y a quelques blessés déjà. Les Orioles de leur côté peuvent dire on a gagné 2 sur 4 sur la route, ce qui est quand même pas mauvais du tout. Mais il va falloir frapper.
Ben, c'est là que tu vois que Gunnar Anderson est un joueur important dans cette équipe. Il n'était évidemment pas là. Lui, il apporte beaucoup à cette équipe en attaque. Ouais. Effectivement, la compensation des petits problèmes qu'on peut avoir ou des défis qu'on peut avoir au monticule, mm-hmm. ça passe par l'attaque. Il faut produire comme on le fait dans une coupe de match, là, dans cette série-là, surtout le premier, là, où des gars comme Rochman sont partis, puis c'est correct, c'est parfait. Mais faut frapper, tu sais, puis c'est là que la force de l'équipe se retrouve.
Oui, effectivement. Ailleurs, Marc, j'aimerais ça qu'on parle des Red Sox de Boston et particulièrement de Raphaël Devers. C'est que c'est un échantillon qui est mince, sauf que son début de saison est historiquement mauvais. C'est pas compliqué, là. On n'a pas vu ça beaucoup. C'est un 0 en 16. Ça se peut que tu sois en léthargie. Mais 12 retraits sur des prises qui accompagnent ces 16. Même, on a vu Jason Varitek à un moment donné s'adresser à Raphaël Devers. Devers qui n'emmène pas large, là, présentement. Au cours du camp d'entraînement, il était pas content, il voulait jouer au troisième but, puis il semble même, quand on va donner des congés à Bregman, que ce sera pas Devers qui va jouer là. C'est difficile de pas faire le lien, Marc, avec ce qui est arrivé au camp d'entraînement, puis la tenue de Raphaël Devers.
Il y a un lien direct, Alain. C'est sûr qu'il y a un lien direct. Je vous donne un exemple que moi, j'ai vécu. Après ma première saison dans le baseball professionnel, j'avais connu une très, très bonne saison. Même moi, je m'étais surpris. Alors, à mon deuxième camp d'entraînement, c'était probablement de tous mes camps d'entraînement mon meilleur. Celui où là, je pense que je me suis vraiment démarqué. Et malgré tout ça, les Dodgers m'ont cédé à nouveau dans le A4 à ce moment-là, alors que moi, j'étais convaincu que c'était mes premiers pas dans le 2A. Puis, j'ai babouné. je pensais pas que je babounais, mais je babounais. C'est-à-dire que là, tu te retrouves dans la catégorie où tu as excellé la saison avant. Donc, tu te dis, là, je fais du surplace. Mais dans ton attitude, il y a de l'injustice. C'est pour ça que j'admire Abraham Thoreau, qui a connu un camp tout à fait exceptionnel, par exemple. Puis il s'en va, puis dès le premier match, au niveau 3A, il excelle. Ça, c'est de la maturité. Ça, c'est quelqu'un là, qui mentalement, qui est à bonne place. Moi, je n'étais pas à bonne place. Je babounais. Ça venait, je frappais pas, puis je disais, ah, c'est bien, là je frappe pas, puis là, ils vont penser qu'ils ont pris la bonne décision. T'sais, au lieu de virer ça dans ton avantage, moi, j'ai babouné, puis ça m'a pris un mois avant de débabouner, pour comprendre que ça avait pas d'allure. Mais j'avais pas l'impression, c'est plus tard que j'ai réalisé ça. T'sais, j'avais pas l'impression que je m'en faisais tant que ça, mais oui, je m'en faisais tant que ça, puis ça me restait en moi. Fait que, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça avec Devers. Alain, c'est pas un frappeur. 0 en 16, ça va arriver à tout le monde. Mais le 12 retrait sur des prises, c'est que là, tu as des élans dans le vide, tu touches même pas à la balle. Et des 0 en 16, tu peux avoir frappé 6 balles sur le nez en flèche dans les mains d'un joueur. Là. Ça va arriver. Et là, écoute, c'est même pas proche dans son cas. Là. C'est des retraits sur des prises, c'est des présences non compétitives là, de la part de Devers. Fait que ça. C'est un aspect mental. Peu importe l'âge ou l'expérience qu'il y a dans le baseball majeur, depuis qu'il est dans le baseball majeur, il y a du succès. Il joue régulièrement au troisième. C'est anormal ce qui se passe présentement. Mm-hmm. Il est convaincu qu'il y a un lien à faire, mais il va pouvoir retrouver ses esprits à un moment donné. C'est sûr qu'on aimerait ça plus tôt que tard, mais c'est sûr qu'il y a un lien, Alain. Je vois pas autre chose dans ce cas-là parce que on le connaît Devers, c'est un gars qui produit, là. Il a produit toute sa carrière. Là. Alors là, c'est. Puis les retraites sur des prises, ça vient aussi avec, là, mais là, c'est exceptionnellement mauvais. Puis c'est dans sa tête que ça se passe présentement. Donc, c'est à lui de faire un petit peu le vide, puis de reprendre un peu ses affaires, puis de comprendre que il est un rouage important de l'équipe, puis que les Red Sox ont besoin de lui cette année.
Oui, et écoute, un petit mot, Marc, sur la fin de semaine de Wheeler Abreu. en fait, il était tellement bon que dimanche, les Rangers ont décidé de ne pas lui lancer. En fait, il trois buts sur balle, puis la seule présence officielle qu'il y a eu, il y a eu un coup sûr. Ce gars-là, Marc, je pense que c'est la même chose pour toi. Dès ses premiers pas dans le baseball majeur, on a trouvé que ce gars-là avait sa place. C'est pas compliqué, là, puis tu sais, déjà un grand or à sa première année complète. J'ai hâte de voir, moi, le plafond de ce gars-là. Je pense qu'il y a encore de la place pour... en fait, il est en train de le montrer, là.
Ben moi, j'ai pas placé les Red Sox en tête de la division pour rien, là. Je regarde, tu sais, t'as Duran au champ centre, qui aussi, je pense qu'encore peut être encore meilleur que ce qu'il a démontré. Tu sais, il y a beaucoup de bons joueurs d'athlètes dans cette équipe-là. Les jeunes qui arrivent, tu sais, je veux dire... C'est une bonne équipe. Puis je suis content de voir Abreu. Je veux dire, il a toujours été ce frappeur-là. Là, tu sais, je veux dire, la balle, elle explose de son bâton. C'est pas mêlant. Donc, je comprends les Rangers d'avoir lâché de la sorte. Mais là, c'est juste qu'il faut accumuler quelques victoires. Puis il faut. Tu sais, les Red Sox, même s'ils ont une bonne équipe, on fait pas exception. Il faut que des gars comme Devers produisent. De 1 à 9, il faut que tu aies une production. Puis c'est un début de saison. Ça n'a pas été la série souhaitée contre les Rangers, mais. Je veux dire, là, on va réévaluer tout ça là, à la fin du mois d'avril, après un mois, là, mais moi, je ne suis pas inquiet pour les Red Sox du tout. Là.
Ce sera intéressant à voir de ce côté. C'est temps de la carte de baseball de la semaine. C'est une présentation de Cartes Trade Union, dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles, dis-je bien, en vente sur eBay et une cote de satisfaction absolument parfaite de 100%. On s'arrête sur Chuck Connors. Je ne sais pas si tu te rappelles le Marc de la série qui était en français, c'était l'homme à la carabine. C'est peut-être un peu avant ton temps, ça, Marc.
Oui, c'est avant mon temps, je le confirme.
La vedette principale, c'est un ancien joueur de baseball du nom de Chuck Connors. Et Chuck Connors a joué avec les Royaux de Montréal. Mais avant de jouer au baseball, il a joué au basketball professionnel avec les Celtics de Boston. Donc, un vrai athlète. Il avait un physique assez imposant. Et sa carte, c'est une carte d'une série qui est des années 80 de Baseball Card Magazine. C'est une de ses éditions. C'est une revue qui n'existe plus aujourd'hui. Et on a créé et inséré quelques cartes, dont celle de Chuck Connors. Tu comprends que c'est un personnage qui, par la suite, s'est fait connaître sur la scène plus que sur un terrain de baseball. Donc, on a décidé de faire une carte à son effigie en 1985. The Rifleman, pour la forme, c'est une série qui a été présentée à ABC, réseau américain, à la fin des années 50, de 58 à 63 plus précisément, et présentée, évidemment, doublée au Québec. C'est très bref, Marc, parce qu'évidemment, 63, c'est l'année où je suis né. Tu comprends que c'est par la suite. Je me rappelle très brièvement de son visage, Chuck Connors, qui a joué dans différents films, les westerns étant très populaires à ce moment-là, puis il avait le physique de l'emploi. Donc, il a eu une très, très belle carrière sur la scène. On peut dire qu'il a pris la bonne décision en troquant là, le gant de baseball là, pour le micro ou encore la scène.
Alain, je prends quelques instants pour souligner notre partenaire principal, Plan de Match. Et maintenant, c'est pas une adresse, mais bien deux adresses pour Plan de Match. Donc, évidemment, à Boucherville, où je me retrouve présentement. Donc, cage de frappeur ici à Boucherville, donc les cours privés, évidemment, tout l'équipement que vous désirez pour le baseball. Et maintenant, au Saguenay, précisément, c'est à Jonquière. C'est une boutique là-bas à Jonquière. Allez-y pour tous vos équipements de baseball. Donc, Plan Match, allez sur leur boutique en ligne également, si vous désirez. Donc, on remercie grandement Plan Match qui se retrouve maintenant à deux endroits au Québec. Maintenant, pour avoir tous les renseignements sur notre balado, bien, visitez notre site Internet, www.comptecomplet.com. On a notre page Facebook également, notre chaîne YouTube. Alors, on est partout. Venez nous retrouver, ça va nous faire plaisir.
Bon, en fin de semaine, Marc, les Yankees se sont payés la traite avec 15 coups de circuit contre les Brewers de Milwaukee. Ça, c'est en 3 matchs. Et les discussions ont porté sur une nouvelle pièce d'équipement, c'est-à-dire le bâton torpedo. Et tu as fait quelques appels, tu as jeté un petit coup d'œil un petit peu de ce qui se passait. Tu vas nous expliquer c'est quoi là, ce nouveau bâton? Est-ce qu'on a ajouté de la dynamite là-dedans? Est-ce qu'il y a du liège, des Super Bowls? Bref, explique-nous un peu de c'est quoi exactement ces bâtons.
Ouais, alors ben écoutez, ce sont des analystes, si vous voulez, là, des Yankees de New York. Et c'est surtout Anthony Volpe qui a été utilisé là, comme exemple, si vous voulez. Alors que vous savez maintenant, on est capable de mesurer l'endroit où la balle, le contact s'est fait sur le bâton. On est rendu là. Et là, ben on réalisait que Volpe frappait la balle. Puis là, je vais essayer de vous donner un petit exemple. Là, ça, c'est un bâton de baseball. Fait que ça, ici, c'est le baril. OK? Ça, c'est la grosseur du baril. Là, c'est ce qui se retrouve entre mes mains actuellement. Mais là, dans le cas de Volpe, là, si vous voyez ici le logo, là, Volpe, ses contacts se faisaient beaucoup plus ici. Alors, lorsqu'on fait contact ici par rapport à ici, la balle va un petit peu moins loin. La balle va un petit peu moins loin. C'est pas le baril exactement. Tu briseras pas ton bâton si tu frappes la balle ici. Mais la balle va aller moins loin. Alors, on réalisait que les balles, donc, Volpe, ses contacts, il y en avait plusieurs là. Alors, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est que le baril, c'est comme si on l'a extensionné jusqu'au logo. Là. Alors qu'on a comme éliminé, si vous voulez, c'est que la partie, là, vraiment le bout du bâton ici, est redevenu un petit peu plus mince. Donc, le baril se retrouve pratiquement entre mes mains présentement. Donc, c'est beaucoup plus long, si vous voulez. Il y a beaucoup plus d'espace au niveau d'un gros baril. Et la circonférence ne peut pas dépasser, si je m'abuse, là, c'est 2,6. Alors, on peut pas dépasser 2,6, ce qui rend le bâton donc légal. Et là, ben, on a testé ça. Un des joueurs qui a pris la peine de le tester davantage, c'est Giancarlo Stanton. Alors, Stanton s'est entraîné à la fin de la saison dernière et durant l'hiver. Et là, ben, on a appris que Stanton est blessé aux deux coudes. Et semble-t-il que Stanton a mentionné que c'est peut-être une des raisons derrière ses blessures. C'est l'utilisation de ce bâton-là parce que le poids est évidemment réparti de façon un peu différente, Alain. Tu comprendras là, que il y a mille et un modèles. Il y a des modèles où le poids est vraiment axé sur le bout du bâton. Parfois, c'est plus vers le milieu. Il y a des manches qui sont minces, qui sont plus larges. Bon, il y a une multitude de... Mais dans ce cas-ci, c'est sûrement... Là, je ne l'ai pas testé encore, mais c'est sûrement différent comme sensation. Bon, de là à ce que ça soit la raison pour les blessures à Stanton... comme m'a dit quelqu'un, Stanton peut se blesser en regardant une série sur Crave. Là. Fait que faut faire attention dans le cas de Stanton. Mais ce que je veux dire, c'est que on a testé ça. Là, les joueurs des Yankees évidemment, depuis l'hiver, il est là aucun entraînement, on a commencé à tester ces bâtons-là. Et là, tu regardes le résultat, c'est tout à fait fantastique. Là, tu t'as parlé des 15 coups de circuit, mais on a frappé la balle d'aplomb. Et la majorité des joueurs des Yankees l'utilisent maintenant. Alors, ce n'est pas illégal, ça a été approuvé par le baseball majeur. Et pour avoir parlé à des gens qui fabriquent des bâtons, il y a plusieurs commandes là, présentement, de d'autres équipes aussi. Donc, c'est un bâton qui pourrait être utilisé par tout le monde, mais ça prend quand même un certain temps avant de pouvoir l'utiliser. Il y a une habitude à créer, c'est, semble-t-il que c'est pas du tout la même sensation, donc c'est pour ça qu'on voit pas tant de joueurs ailleurs l'utiliser. Donc, les Yankees ont eu, disons, cette avancée. Et là, ils en ont profité là, dès le départ. Alors, pour l'instant, le baseball majeur accepte tout ça. On verra la suite des choses si ça produit vraiment des points d'avantage pour les autres qui vont éventuellement l'utiliser. Mais c'est un petit peu l'histoire derrière ça. Et là, semble-t-il que la personne qui a développé ce concept-là chez les Yankees n'est plus à l'emploi des Yankees et se retrouverait avec les Marlins présentement. Donc, ça, c'est une autre information à souligner. Mais est-ce que c'est la première fois, Alain, que l'équipement au baseball est modifié à un point tel que ça change les données? Et je m'explique rapidement. Vous savez qu'à cette heure, ben, que ce soit au tennis, au golf, là, tu sais, je veux dire, l'équipement a complètement changé. Les bois, ou en fait les drivers au golf, là, c'est différent. Même les balles sont différentes, les tiges sont différentes. C'est la même chose pour les sports de raquettes. La technologie a fait en sorte que les joueurs peuvent être encore meilleurs. Mais au baseball, à part avoir ajouté de l'érable à un certain moment donné, là, on est resté toujours dans l'essence du bois où c'est du bois, puis c'est une balle en cuir, puis les gants sont... Il y a certains types de cuir différents, mais l'équipement n'a jamais été différent. Et là, on sort vraiment de l'ordinaire parce que, vous allez voir, là j'en ai pas, mais il y a des images là, sur Internet. Le bâton est vraiment différent. Là. Le look est différent. C'est. Alors, on verra pour la suite des choses, mais ça, ce qui est certain, c'est que là, les Yankees ont passé tout un message. Et là, évidemment, tu comprends que ça a piqué la curiosité d'à peu près tout le monde dans l'industrie. Alors, tout le monde est là-dessus présentement, puis on essaie de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, je suis convaincu que le commissaire te dit, voilà peut-être une solution pour avoir plus d'attaques. Parce que c'est ce qu'on recherche souvent dans le baseball, c'est d'aller chercher des matchs où l'attaque est un petit peu plus mise en valeur.
Écoute, il y en a de l'attaque, Marc. Le problème, c'est de la façon dont l'attaque est générée. T'sais, il y a moins de balles en jeu. Il est là le problème. Puis, si on continue dans cette tendance-là, Marc, on va rechercher encore plus de lanceurs qui vont manquer de bâtons plutôt que des déséquilibrés. Moi, je pense qu'on va accélérer la tendance qui existe déjà, c'est-à-dire d'aller chercher des lanceurs qui lancent fort. C'est ça que ça va faire.
Oui, mais attention, Alain, parce que plus tu lances fort, plus la balle va loin. Là. C'est-à-dire que là, tu as juste à mettre le fameux baril sur la balle. Fait que tu as raison, mais en même temps, tu sais, un changement de vitesse, tu peux être déjoué. Tu vas me dire que tu peux frapper une balle plus loin, mais ça peut devenir aussi efficace. En tout cas, c'est intéressant parce que là, on entre dans une nouvelle ère où là, il y a des changements importants au niveau de l'équipement. Puis là, c'est le fun d'analyser ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
J'ai une question, Marc, sur le plan technique. Tu as fait référence à Anthony Volpe et l'endroit où il frappe la balle généralement. Est-ce que c'est là où on frappe la balle? Est-ce que Volpe est différent des autres? Ou si... s'il y a une tendance globale?
Je pense pas que Volpe est différent des autres. C'est lui, c'est comme si on l'avait pris en cobaye, si vous voulez. Là, on s'est dit, gars, on va l'essayer avec lui. Mais non, parce que, tu sais, tu as parlé de la vélocité, Alain. Inévitablement, plus tu lances fort, plus tu affrontes un lanceur qui lance fort, plus tu vas te faire menotter. Là. C'est dur d'amener la vitesse de tes mains à un moment donné. Il y a une certaine limite. Là. Donc, c'est probablement un constat en général où les gars se font un peu menotter. Le bâton ne brise pas à cet endroit-là. Le bâton va briser si la balle atteint le bâton au bout du bâton ou près des mains. Ça, c'est les deux endroits là où si un frappeur est surpris ou désynchronisé, c'est là que le bâton va briser. Mais à ces endroits-là, le bâton ne brisera pas, mais habituellement, le rôle du lanceur, c'est de menotter le frappeur. Et là que la balle t'en va nulle part. C'est lorsqu'elle est frappée à cet endroit-là. Alors que là, semble-t-il que la balle... Tu sais, on a vu un des circuits de Jazz Chisholm au cours du week-end dernier. On l'a très, très bien vu au ralenti. C'est pas une balle qui a été sur le baril original, si vous voulez. Ça a été sur le nouveau baril. Et la balle a quand même franchi le plus de 375 pieds. Alors, ça a été c'est un constat là, que c'est quelque chose qui peut faire la différence. Ouais.
Écoute, Marc, je ne sais pas si on va retrouver des extrêmes. Puis là, quand je parle d'extrêmes, j'ai Heinie Groh en tête. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, ce nom-là. Mais son bâton est au temple de la renommée. Et le bâton qu'il avait, Marc, c'est le thème qu'on avait, c'est le bâton bouteille. Tu te rappelles de ça? Heinie Groh était un des derniers à frapper avec ça. Il était un très bon frappeur à son époque. Tu ne généras pas beaucoup de puissance avec un bâton comme celui-là, je pense. En tout cas, dépendant. Mais est-ce que c'est illusoire de penser qu'un bâton pourrait avoir cette forme-là avec les frappeurs d'aujourd'hui, Marc?
Ben, écoute, tu sais, je veux dire, tu regardes la forme de du torpedo, là, c'est assez unique, ça. Là. Bon. Là, si on découvre que ça fait une différence, ben là, on va poursuivre les recherches pour d'autres choses. Faut pas dépasser, c'est la circonférence. À un moment donné, ben, tu peux pas avec un tronc d'arbre au bâton, là, puis dire, ben là, moi, je frappe avec ça, là. Tu sais, même si t'as. Mais, tu sais, des bâtons différents, là, il y en avait déjà beaucoup, mais c'était surtout au niveau du manche. Il y en avait qui avaient pas de petite paume au bout, il y en avait qui c'était plus large, puis il y en avait qui ont essayé même de mettre, ça ressemblait à une roulette de tape, là, si vous voulez, là, au bout du bâton. Tu sais, on a essayé un paquet de choses, mais c'était surtout au niveau du manche. Alors là, c'est comme une des rares fois où on touche le baril. Et tu sais, je disais qu'il y a multiples modèles. Il y a des modèles où, effectivement, tu as l'impression que le baril est un petit peu plus plus long, mais ça part du bout du bâton, vraiment. Mais souvent aussi, c'est les bâtons sont très différents, mais quelque part, sont presque pareils. Alors que, tandis que ce modèle-là, ben de toute évidence, là, est en train de changer la donne. J'ai hâte de voir d'ici un mois ou deux, Alain, est-ce que plusieurs autres joueurs des autres équipes vont l'adopter? Est-ce que ça va fonctionner? Je suis convaincu qu'on est déjà en train de... Parce que pour avoir parlé à quelques compagnies, il y a des commandes qui se font là, présentement. Donc, j'ai l'impression que on pourrait voir ça, ces bâtons-là, de façon la plus constante là, dans les prochaines semaines.
Écoute, ça nous amène ça à notre segment de la question de la semaine. Toute cette question tournant la technologie, l'ingénierie, j'ajouterais même la question qui est présentée par Sidmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sidmar.ca. Après le premier week-end, vous avez regardé quelques matchs. Est-ce que la zone électronique, avec les deux contestations, là, est-ce que ça vous manque? Est-ce qu'on devrait peut-être accélérer l'adoption de ça? Ce ne sera pas cette année. Plusieurs prétendent que dès l'année prochaine, on le verra. Envoyez-nous vos commentaires.
T'en penses, Alain?
Moi, je pense que oui. Je pense que j'ai vu quelques décisions, Marc. Même dans le match de dimanche, on l'a vu à un moment donné. Là, il y a un frappeur qui aurait dû être retiré sur des prises. C'était assez évident. Là. Ça change complètement. Puis, je le sais, il y a l'aspect humain dont on va parler, mais c'est toujours la sempiternelle question. Est-ce que tu aimes mieux l'aspect humain ou avoir la bonne décision? Ça revient à ça, Marc. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, là, mais je pense que t'aimes mieux avoir la bonne décision là, comme frappeur.
Ben, moi je trouve, tu sais, puis là, je sais qu'il y a des gens qui disent, ben c'est tout un ou tout l'autre, là, mais moi, je trouve que ça ajoute un petit peu. Ça ajoute un peu de croustillant au match.
Oui, absolument. Et
le moment où tu demandes la contestation, si jamais tu en perds une contestation, oups, là, il t'en reste une. Il faut qu'elle soit stratégique. Il ne faut pas que tu sois égoïste. Est-ce que c'est le lanceur, est-ce que c'est le receveur qui le demande, le frappeur? Bon, moi, je trouve que ça ajoute un petit peu de piquant, puis j'haïs pas ça, tu sais.
Oui, c'est une formule hybride là, qu'on a adoptée plutôt que l'ensemble de garder la zone électronique au complet. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Il y a même une stratégie dans la façon de l'utiliser. Bref, moi, j'ai hâte, en tout cas, qu'on soit rendu là. On vous invite à à communiquer avec nous. Et mettre vos commentaires ou aller sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado ou directement, vous pouvez aller sur notre site internet compte-complet.com. C'est le segment maintenant au cercle d'attente qui est présenté par Baseball Bob. Allez sur le site internet www.baseballbob.ca. Notre ami Bob McDuff, auteur de livres avec des histoires passionnantes pour les jeunes sur le baseball. Et on vous invite aussi à la lecture. On perd rien, absolument, même qu'on gagne beaucoup à apprendre plein de choses avec la lecture. Et comme on le mentionne à chaque semaine, la littérature baseball qui s'amplifie chaque année. Donc, on vous invite très fortement à vous initier à la lecture. Pour les jeunes, ben, pourquoi pas aller voir les œuvres de notre ami Bob McDuff à baseballbob.ca. Et notre portrait aujourd'hui, c'est Eric Skubal, le vainqueur du dernier trophée Cy Young. Il a en fait gagné la triple couronne des lanceurs l'année passée. Meilleur moyen de points mérités, plus grand nombre de victoires, le plus grand nombre de retraits sur des prises. Une histoire un peu commune, celle-là, Marc, il vient de l'Arizona, mais vient pas d'un grand centre. Donc, très peu recruté. Et au niveau universitaire, il s'est retrouvé à l'Université de Seattle. C'est pas, Marc, c'est pas une université d'où on recrute beaucoup. Ça n'a rien à voir avec Vanderbilt, par exemple, ou d'autres universités là, qui ont une plus grande tradition. A eu des problèmes au bras, l'opération Tommy John, Marc, alors qu'il était à l'université, de sorte que les Tigers de Détroit ont eu une aubaine. On était capable de l'avoir au 9e tour au repêchage. Et finalement, Marc s'est élevé comme étant, évidemment, l'année passée, le meilleur lanceur de la Ligue américaine. C'est toute une histoire que la sienne. Ça signifie que d'avoir des bonnes connexions quand tu es recruteur, c'est aussi important que, que de suivre le gars qui est à Vanderbilt. Et les 30 équipes savent si c'est pas lui qui peut-être qui fait en sorte que tu vas te faire un nom comme recruteur.
Écoute, c'est toujours le rêve de. Le rêve. En tout cas, c'est certainement un défi pour les dépisteurs de justement de nicher ce joueur qui est parfois justement pas des endroits là. On retrouve des lanceurs à l'habitude. Puis même si maintenant, c'est rare qu'avec toute la technologie, justement, on connaît à peu près tout le monde au pays. Mais c'est le fun quand même de trouver ce joueur-là dans ce cas-ci. Je sais pas si tu connais l'histoire, mais tu sais que Skubal a offert un petit cadeau à son receveur l'année passée, Jake Rogers. Alors, il va faire une belle montre et à l'arrière de la montre, il est vraiment inscrit là, toutes les. Bon, t'as parlé de la triple couronne.
Oui.
Fait que, tu sais, les receveurs n'obtiennent pas beaucoup de crédit. Et puis, Skubal, évidemment, c'est lui qui lance la balle. Mais la synergie, l'attitude parfois, tu sais, le temps d'arrêt là, pour du receveur qui dit, hey, écoute, là, réveille-toi, là. Tu sais, il y a des choses comme ça. Le receveur est tellement. Il reçoit pas assez de crédit pour ce genre de succès-là. Et je trouve ça le fun que Terrence Skubal, lui, il le savait, puis demain, il a gâté son receveur. Mais ça reste que Skubal a réalisé l'année dernière. C'est tout à fait, tu sais, dans le baseball moderne, c'est vraiment excellent. Puis là, évidemment, là, tu l'as réalisé, fait que tu comprends que les attentes sont maintenant extrêmement élevées pour la prochaine saison.
Oui. Tu sais, les Diamondbacks l'avaient repêché, Marc, au 29e tour. Le problème, c'est qu'il n'avait pas lancé cette année-là. Donc, on attendait peut-être de voir qu'est-ce qui était pour arriver avec lui. Il est revenu, il n'avait pas été aussi bon que lors de ses deux premières années, mais écoute, il y a quelqu'un là à Détroit qui l'aimait assez pour prendre une chance avec lui. Puis regarde, on s'en frotte les mains aujourd'hui. Et juste un dernier point, Rogers a été le receveur pour chacun de ses départs en 2024.
C'est ça. Fait que, je veux dire, c'est... Mm-hmm. Il y a quelque chose là. C'est pour ça que Greg Maddux, rappelle-toi, il avait son receveur attitré. Il y a une importance. Il faut que le receveur pense comme toi. Il faut que ça soit simple. Le receveur, c'est lui qui a maintenant qui dit, écoute, là, on la lancera plus. Ta courbe, par exemple, est flat aujourd'hui. Anna marche pas. On change complètement la stratégie. C'est le receveur, souvent, qui va le proposer, qui va dire, hey, regarde, là, t'arrives, les gars sont prêts. Fait que le receveur a vraiment beaucoup de responsabilités derrière les succès, évidemment, d'un lanceur comme Terrence Skubal.
Oui, puis quand Dennis Martinez a lancé son match parfait, Marc, c'était Ron Hassey qui était le receveur, là, et Hassey a été son receveur attitré cette année-là. Hassey, c'était la seule saison de sa carrière avec les Expos, mais c'est lui qui était attitré pour les départs de Dennis Martinez. Marc, tu as eu l'occasion de parler à Édouard Julien au cours de la semaine. La dernière semaine, lui qui s'est taillé un poste avec les Twins du Minnesota à l'issue d'un très bon camp d'entraînement. C'était une année, Marc, qui était difficile pour Édouard Julien. C'était difficile, évidemment, au bâton. Ça a été difficile, ça lui a même valu un petit séjour là, de l'autre côté du pont, à Saint-Paul, Minneapolis. Saint-Paul qui est la filiale 3A de Minneapolis là, pour la forme. Un peu mélangé, Édouard Julien. Donc, raconte-nous un peu ce que tu as retenu des propos que Julien a énoncés lors de ton entretien avec lui.
Oui, je vais vous résumer ça, mais c'était un bel entretien avec Édouard. Et c'est que, on va commencer par le changement d'instructeur de frappeur. On en a déjà parlé, Alain, il y a eu un changement dans l'organisation des Twins. Et ce que Edouard a apprécié, évidemment, c'est que un nouvel instructeur des frappeurs s'est déplacé à Québec durant l'hiver. D'aller voir directement Edouard Julien, ce que j'ai su, c'est qu'il l'a fait à quelques joueurs seulement, 4 joueurs de l'organisation. Il a rencontré tout le monde, mais tu sais, parfois c'était via un Zoom, parfois c'était en Floride, bon, mais il s'est déplacé pour des joueurs, dont Edouard. Et Edouard a beaucoup apprécié, et ce qu'il a surtout apprécié, c'est que les conseils qui viennent de l'instructeur des frappeurs, c'était surtout dans, tu sais, sa préparation, son approche. Très peu de technique. Très, très peu de technique. Alors que l'ancien, sans faire de comparaison, était très, ben, tu sais, faudrait que tu fasses ci, tu montes tes mains, tu baisses tes mains, tu sois plus là. Et je pense que c'est là qu'Edouard s'est retrouvé un peu plus mélangé. Puis, je le comprends, là, tu sais, c'est qu'une fois que la saison commence, tu veux, tu sais, les modifications, là, sont difficiles à réaliser, tu sais. Alors que l'état d'esprit dans lequel tu te retrouves, c'est là que c'est important. Et là, ben, Edouard a beaucoup apprécié ça. Et il n'a pas connu un bon camp d'entraînement pour rien non plus, là. Je pense que son approche en arrivant au bâton était pas mal meilleure à ce niveau-là, ce qui a fait la différence. Mais ce qui m'a le plus, je dirais pas surpris, là, mais qui m'a intéressé davantage à la discussion que j'ai eue, j'ai demandé à Edouard, est-ce que tu apprécies les nouvelles données, les statistiques avancées, là? T'sais, parce qu'on sait que on peut, si t'en veux, on va t'en donner. Tu comprends? Il y en a. Et il a dit, écoute, à ma première saison, je voulais rien savoir. Je voulais moi-même, de mes propres yeux, voir c'est quoi la rapide, m'ajuster au balai fait, tout ça. Puis, Edouard, rappelez-vous, avait connu quand même un certain succès, évidemment, à sa première saison. Mais là, ben, là, ça l'a rattrapé un peu. Alors, il a voulu utiliser les statistiques avancées avec des changements mécaniques. Ça n'a pas vraiment donné les résultats. Tu as parlé de sa saison l'année dernière. Mais là, il a appris à connaître l'information qu'on a et sur lui et l'information qu'on a et sur les lanceurs. Puis là, Alain, on va pas mal plus loin qu'une statistique avancée, puis je m'explique. On a donné comme exemple le lanceur partant des Cards contre les Twins dans le premier match, c'était Sonny Gray. Et là, on apprend, Edouard me fait mention, que, par exemple, sur la courbe de Sonny Gray, combiné à l'élan d'Edouard Julien, ben statistiquement, il n'y aura pas beaucoup de succès contre ce tir-là. Là, moi, j'ai demandé, OK, mais comment tu peux amener ça, tu sais, comment tu peux aller affronter un lanceur comme ça dans un esprit positif en sachant que si tu lances une courbe, tu n'as aucune chance. T'sais, c'est un peu ça, là. Et il a dit, non, au contraire. Il dit oui, tu as 2 façons de le voir. Mais l'autre façon, c'est, tu sais, maintenant, Alain, avec les fameux lance-balles, ben on peut imiter les balles à effet des lanceurs. Alors, Edouard, il dit, ben au contraire, je m'en vais m'entraîner, je mets le lance-balle qui va me donner la courbe de Sonny Gray, puis je vais en frapper, 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 pour que si j'arrive dans le match, il le sait, le Sonny Gray, que sa courbe contre Edouard Julien, ça fonctionne, donc il va probablement la lancer. Alors, il vire ça de son bord à son avantage en disant, ben là, je l'ai tellement frappé que je vais prouver que je suis capable de la frapper. Mm-hmm. Et là, c'est là qu'il vient et qu'il m'explique que ce qui est important pour lui, on n'a même pas parlé de statistiques, là. Je parle pas de 3 coups sur 10, là. Ce qu'il me dit, c'est que l'important, c'est qu'il prouve qu'il fasse bon contact avec tous les différents lancers. Parce que la statistique le dit, là, que par exemple, sur, tu sais, je vais dire n'importe quoi, là, mais sur la rapide haute, il y a de la misère. Avec Edouard, son objectif, c'est de prouver que sur la rapide haute, il est capable de faire bon contact. Je parle pas d'un coup sûr, je parle d'un bon contact. Mm-hmm. Alors, le défi pour les frappeurs aujourd'hui, ça l'a toujours été, tu veux faire bon contact, puis les bons contacts vont résulter en coup sûr, mais donc lui, là, c'est qu'il veut prouver que la statistique, exemple, la courbe de Sonny Gray, que c'est plus vrai. Il va falloir fouiller davantage pour ça. Alors, les frappeurs arrivent dans un état d'esprit où ils connaissent leur faiblesse vis-à-vis un certain lanceur, ils essaient de prouver que ça a pas changé tant que ça au point où ce que je veux dire, Alain, c'est que, par exemple, moi, là, j'avais un peu de misère sur les changements de vitesse, puis il y a des gars qui abusaient de ça contre moi, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'en frappe 2-3 dans l'allée, puis que là, OK, il a fait ça justement. Sauf que là, on le sait plus. On est capable de le savoir davantage. T'sais, on est capable de combiner que l'élan d'un frappeur, ben contre un certain tir, il connaîtra jamais de succès. Fait qu'il faut que tu trouves le moyen de t'ajuster à ça. Parce que les deux connaissent l'information, et lanceur et frappeur. Puis là, ben, si tu es en train de prouver que tu es capable de le frapper, ben là, le lanceur va être obligé de changer de stratégie. Puis là, peut-être qu'il va revenir à la balle rapide, alors que toi, tu aimes ça, la balle rapide. Alors, c'est un jeu, là. Écoute, on peut se perdre là-dedans, Alain, là, de façon incroyable. Mm-hmm. Mais j'ai trouvé ça super qu'Edouard s'ouvre sur ce style. Mm-hmm. Et la réalité des joueurs de baseball aujourd'hui. Tu sais, souvent, à l'époque, c'était l'œil. Moi, je veux l'affronter, je vais l'observer, je vais voir ses défauts, je vais être capable d'observer. C'est encore vrai aujourd'hui, mais appuyé par un paquet de données qui fait qu'on se retrouve dans ces situations-là. Donc, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas se perdre là-dedans. Parce que c'est très facile d'aller se perdre dans toutes ces données-là.
Ouais.
Alors que ce que le nouvel instructeur des frappeurs dit, c'est qu'il faut que tu arrives dans un état d'esprit qui est libre. En anglais, l'expression, c'est « clear your mind ». Tu sais, c'est quand tu arrives, puis c'est toi puis la balle. Alors, imagine-toi, là, c'est tout un défi pour les frappeurs. Là, je parle de frappeurs, évidemment, là, parce que c'est le cas d'Edouard Julien, là, mais tout un défi pour le frappeur, sachant les données qu'on vient de se dire, que là, tu affrontes le gars, puis de pas avoir dans ta tête un paquet de pensées qui va te dire, ben là, il faut que je fasse ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça prend aussi une discipline d'utiliser l'information, mais de l'amener de façon intelligente.
Oui. Est-ce que tu vois l'évaluation des frappeurs changer statistiquement, Marc? Parce que si tu as 600 présences au bâton, si tu frappes la balle d'aplomb, les chiffres vont le représenter éventuellement. Dans un échantillon qui est mince, regarde, Arraez, on l'a bien vu, là. Il est 0 en 14, je pense, là. Présentons 0 en 13. Il a frappé deux balles d'aplomb dans le match de dimanche qu'on a présenté. Donc, éventuellement, s'il frappe la balle d'aplomb, ça va tomber. Mais est-ce que tu vois, tu sais, Marc, la moyenne au bâton, j'y accorde plus ou moins d'importance. Puis Arraez, c'est un cas extrême. C'est un gars qui frappe pour 300, mais un MPP qui est à peine au-dessus de la moyenne du baseball majeur parce qu'il apporte pas grand-chose d'autre. Mais, c'est ça. Je sais que c'est différent d'un frappeur à l'autre, mais est-ce que tu vois un changement éventuellement toi, dans l'évaluation?
Je vois le changement dans l'évaluation au niveau de l'équipe. Tu sais, au niveau
des organisations.
Parce que tu sais, regarde, Devers, c'est 0 en 16. Puis Arraez pour être 0 en 16. Mais c'est pas le même 0 en 16. Tu comprends? Ouais. C'est un 0 en 16 de 12 retraits sur des prises d'un bord, puis l'autre bord, c'est probablement 5 à 6 balles frappées sur le nez, mais qui ont été saisies. Fait qu'on n'est pas à la même place. Fait que tu sais, c'est sûr qu'un gérant va dire Arraez, regarde, t'es 0 en 16, moi. Mais tu sais, si t'avais été moindrement chanceux dans le sens que si la balle, tu la frappes un pied à droite ou un pied à gauche, tu frappes 350. Tu sais, je veux dire, c'est aussi, c'est pour ça que c'est frustrant pour un frappeur qui est dans une mauvaise séquence. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il a frappé la balle d'aplomb. Alors que Devers, ben, c'est des élans dans le vide. Alors lui, il est vraiment dans le trouble, puis là, lui, il va vraiment falloir qu'il... Mais le partisan, lui, il va regarder 0 en 16, 0 en 16, il va dire hey, les deux sont pourris. Tu sais, il veut dire c'est ça. Alors, l'évaluation, peut-être, mais tu as raison de dire que sur le 600 à présence, tu sais, si tu frappes d'aplomb, tu vas finir par jouer, puis tu vas finir par avoir une bonne saison. Puis dans le fond, Edouard, c'est ce qu'il disait. L'année dernière, pas assez de contacts francs. Beaucoup de retraits sur les prises l'année dernière. Tu sais, alors là, il veut revenir avec ses contacts francs, puis inévitablement, ça va lui permettre d'avoir plus de succès que l'année passée. C'est juste que les données, Alain, c'est un entretien d'à peu près une quinzaine de minutes que j'ai eu avec, là, mais je veux dire, je pense que si on avait une heure et demie, il aurait continué à tenter de dire, ben, alors, tu sais, tu peux te perdre là-dedans, puis ça prend toute une discipline pour le frappeur de tenter d'amener ça positivement, là.
Oui, puis si je peux ajouter, Marc, dans le cas d'Edouard Julien, même à son entrée dans le baseball majeur, c'est le cas qui avait le profil parfait du type de joueur moderne.
Oui, patient, but sur balle, un peu de puissance aussi. Puis,
exact.
Et je reviens rapidement à Bram Thoreau, tu sais, Bram Thoreau qui a connu un camp exceptionnel, puis j'en ai parlé un petit peu tantôt, il n'a pas babouné, il s'est retroussé les manches. Ouais. Et ça, c'est probablement dû au fait qu'Alex Cora lui a dit « Hey, t'es proche, là, puis tu vas être rappelé, puis continue ton bon travail. » Fait que ça, c'est extrêmement motivant. Fait que tout cet aspect mental-là est extrêmement important pour les succès d'un joueur. Puis ce qu'on a dit à Edouard Julien, tu sais que les Twins se sont excusés, hein? Les Twins se sont excusés parce qu'on sait qu'on l'a mélangé. On l'a mélangé avec tous les détails techniques, puis à ça ici, puis à ça ici. On s'est dit, on n'avait pas l'affaire à tenter de changer ton élan. Mm-hmm. Ça, j'ai trouvé ça formidable de la part de l'organisation des Twins. Et là, Edouard comprend que Là, évidemment, il n'y a pas un poste régulier. Fait qu'il sait que les prochaines présences, peut-être, ça va être des présences comme frappeur suppléant. Ben, c'est d'avoir une bonne présence puis de frapper une balle d'aplomb avec la préparation qu'il y a. Mais tu vois que mentalement, il est une bien meilleure place qu'il l'était l'année dernière.
Ouais, j'ai bien hâte qu'on le fasse jouer un peu plus régulièrement par ailleurs. On présente 3 matchs. C'est commencé le baseball majeur. On est à la première semaine d'activité. Et 3 matchs, lundi, mercredi, vendredi. L'horaire des matchs de la semaine à RDS. C'est une présentation de Lester's. C'est le maître du smoked meat et des hot dogs. Et ce, depuis 1931. Pour un match, un barbecue, un festin en famille. Lester's, c'est toujours la marque à prendre. C'est un rendez-vous pour tout le monde. Disponible chez votre épicier préféré. 3 matchs ce lundi. Pittsburgh contre Tampa Bay. Pittsburgh qui a des aspirations. Au moins jouer pour 500. Puis si ça tourne bien, peut-être qu'on pourrait avoir des aspirations. On a un personnel de lanceur qui n'est pas mauvais. On se croise les doigts pour Jared Jones. Blessure au coude, mais pas de problème ligamentaire, dit-on. Donc, Pittsburgh-Tampa Bay ce lundi, 19h à RDS. Mercredi, on verra le bâton torpedo des Yankees de New York contre les Diamondbacks de l'Arizona, mercredi à compter de 19h. On pourra les voir de nos yeux. Et dimanche prochain, on verra les Red Sox de Boston au Fenway Park contre les Cards de Saint-Louis. C'est un match qu'on va prendre en cours. Il y a beaucoup d'actions. Enfin, il y a beaucoup de matchs et d'activités sportives qui vont être présentées à RDS. Donc, c'est à RDS2 que les Red Sox vont accueillir les Cards. Match en cours autour de 19h30. Mais j'espère que ce balado vous a plu. Alain Huzreau, Mark Griffin, en compagnie de notre maître technicien Martin Villeneuve. On vous souhaite de passer une très belle semaine. À très bientôt.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay. Fiers partenaires de votre passion.